On n'est pas du monde, version 15 minutes, avec Antoine Malenfant et son invité.
Aujourd'hui à l'émission, Laurence Godin-Tremblay nous donne un petit cours d'italien et revient sur ses péripéties spirituelles à Florence. Dans le plus récent numéro de la revue Le Verbe, vous avez peut-être découvert une nouvelle plume, celle de Laurence Godin-Tremblay, qui aussi sévit quelquefois sur la toile, sur leverbe.com, avec ses analyses, parfois d'une pièce de théâtre, parfois d'autres choses. Et là, elle est avec nous aujourd'hui, On n'est pas du monde. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Et c'est pour nous livrer un peu une version radiophonique de ce qu'elle nous a livré finalement dans la revue, mais j'imagine qu'on va avoir quelques bonus en prime. Laurence Godin-Tremblay, mettons la table tout de suite, là, dans ce texte-là intitulé Laurence à Florence, ça aurait pu s'intituler autrement, n'est-ce pas?
Oui, moi j'avais pensé à un autre titre.
Dis-moi pas que l'éditeur a changé ton titre.
J'avais pensé
à... Je sais pas c'est qui le malcommode qui a osé faire ça, mais vas-y, dis c'était quoi ton titre.
J'avais pensé à Mon père spirituel est italien. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai mis à jour mon CV la semaine dernière. Puis dans les articles non scientifiques, là, les articles grand public, j'ai écrit que j'avais écrit un article qui s'appelle Mon père spirituel est italien. Mon mari l'a vu, il m'a dit que j'avais menti parce que c'est pas le titre.
J'aurais pu dire que t'es têtu.
Mais c'est ça, exact.
Simon peut le dire, pas moi, ouais.
C'est le vrai titre dans ma tête. Uh-huh. Donc je l'ai remis sur mon CV.
Alors pourquoi Mon père spirituel est italien, Laurence Godin-Tremblay?
Parce que l'article que j'ai écrit dans la revue parle de Florence, de fait. Puis ça me fait rire aussi parce que des fois, les gens me disent. Bon, je m'ennuie de Florence, puis les gens me disent « C'est normal, la ville de Florence est tellement belle, bon, avec l'architecture, l'art et tout ça. » Mais je m'ennuie de Florence parce que, en fait, je m'ennuie d'un prêtre en particulier. Je m'ennuie pas tant que ça de l'architecture. D'ailleurs, ce prêtre-là aimait répéter que j'étais absolument aveugle à toutes les beautés de Florence parce que, bon, mes journées se résumaient à lire mes livres, à étudier, puis à aller à la messe à son église, qui était pas la plus belle du tout de la ville.
Mettant en contexte un peu, tu t'es retrouvé là pour des études doctorales en philosophie, Laurence, c'est ça?
Oui, un peu par hasard.
Ah oui?
C'est-à-dire, j'ai fini ma maîtrise...
J'aimerais ça qu'il m'arrive des hasards comme ça.
Ouais, ben, <La Florence.
rire> continue.
J'ai fini ma maîtrise rapidement, puis en philosophie, tout va vite, c'est-à-dire que... non, mais pas l'étude, mais au moins, en tout cas, les demandes de bourse, puis il fallait que je fasse mes demandes de bourse pendant encore que j'étais à la maîtrise pour le doctorat. Trouve mon directeur ici à Montréal... mon directeur à Montréal est italien. Il me propose toutes sortes d'endroits dans le monde où faire ma co-tutelle, parce qu'en philosophie, au doctorat, il faut faire une co-tutelle, ça a l'air. Puis j'ai dit « OK, c'est bon ». Il me propose plein de places, des places où il fait chaud, parce que lui, il trouve qu'à Montréal, il fait trop froid. Et il me propose Florence, parce que là-bas, il y avait un bon professeur sur Aristote, sur la logique d'Aristote en particulier. Bon, moi, je trouvais que l'italien, ça avait l'air d'être une belle langue. J'ai appris le latin, entre autres, puis je me disais que l'italien devait être assez facile à apprendre, assez joli. Donc, j'ai dit oui, sans vraiment réfléchir, pour aller étudier un an à Florence.
Et là, il y avait évidemment les études qui t'attendaient, mais aussi... entre guillemets, par hasard, ce père-là, ce père italien qui est devenu ton père spirituel, raconte-nous comment ça s'est passé.
Oui, alors, bon, je suis arrivée là-bas, puis c'est sûr qu'au doctorat, c'est particulier parce qu'on n'a pas des tonnes de cours, donc on a beaucoup de temps. Puis c'est sûr qu'en arrivant à Florence, le premier choc que j'ai eu, c'est de voir aussi, c'est ça, à quel point j'avais du temps libre, parce que bon, il n'y a pas la famille, à l'époque, j'avais un fiancé qui est maintenant mon mari, heureusement. Mm-hmm. Puis, donc, j'avais vraiment beaucoup de temps. Et je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais aller à la messe plus souvent. En fait, c'est ça, tous les jours.
C'est dangereux, le temps libre.
C'est dangereux, le temps libre.
T'as vraiment mal viré. Mais, oui, continue.
Au début, en partie, parce que j'avais envie de redécouvrir ma foi, que je chantais un peu plus tranquille depuis quelques années, plus tiède. En partie aussi, d'un point de vue très pratique, là, j'avais envie d'apprendre l'italien, puis rien de mieux que la messe qui est très répétitive pour entendre les mêmes mots. Donc, je me souviens, les premières messes, des fois, ça se résumait aussi à « Oh, subjonctif, ici, on a l'accent tonique est sur la première syllabe. » Mais oui. Mais en allant à la messe tous les jours, peu à peu, je dirais que ça m'a touchée puis fascinée d'une manière... qui m'a surprise la première. Là. C'est-à-dire que ça commence comme ça tranquillement, on va à la messe tous les jours, puis après on a envie de rester après la messe, on a envie d'arriver à l'avance à la messe. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Mais ensuite, c'est cette rencontre-là avec, il s'appelle Don Francesco, qui a été décisif. Je suis allée à une soirée de prière au séminaire de Florence. Moi, j'avoue que j'allais là, je m'attendais à rencontrer des séminaristes qui aiment la philosophie puis à pouvoir parler avec eux. Pour être franche, là, je pensais qu'on allait être 10 puis que j'allais pouvoir... En plus, il annonçait un repas, je me disais « Yes, on va parler de saint Thomas d'Aquin. » Ou...
La nourriture italienne.
Oui, c'est ça. Mais en fait, là, c'est très décevant, les paninis, mais en tout cas... Puis, bon, j'arrive là-bas, finalement, on est 100 pratiquement. Hein? C'est le bordel, il y a des jeunes qui crient partout. Moi, je comprends rien quand on me parle parce que je viens d'arriver, puis surtout quand il y a de l'écho, je suis pas capable de vraiment répondre ou parler, puis je me sens vraiment ridicule. Il y a un temps de confession après les paninis. Parce qu'ils mangent tout le temps là-bas avant les groupes de prière, ça, c'est assez frappant.
Peut-être qu'on devrait instaurer ça ici.
Hein. Oui, mais là, c'est pas très bon à ce séminaire-là, mais aux autres, c'est excellent.
La pastorale du ventre, comme j'aime appeler.
Oui, c'est ça. Super. Puis, bon, c'est ça. Je me suis dit, c'est ça. On a le groupe de prière, il y a un temps de confession. Martina me dit, ah, tu peux aller te confesser. Je dis, OK. Puis, je me souviens d'avoir... J'avais deux prêtres en face de moi. Il y avait un prêtre qui venait du Brésil, où ce prêtre-là que j'avais déjà rencontré brièvement, qui s'occupait de la pastorale universitaire là-bas. Je me suis dit, ça serait bien de me confesser à un prêtre de Florence qui va rester là toute l'année, puis qui pourrait peut-être être mon confesseur un peu plus régulier. Puis je me suis dit, cette confession-là aussi, je l'ai sentie vraiment comme libératrice, parce que je suis partie en me disant, et ça c'est quand même amusant, je me suis dit... de toute façon, ce prêtre-là, il va peut-être être dans ma vie pendant un an, mais rien de plus. Après ça, je me retourne au Québec, puis je vais l'oublier. Puis
il va t'oublier.
Il va m'oublier. Fait que je vais lui parler comme franchement.
Puis rien à perdre.
Ça a été une confession vraiment étrange, parce que d'abord, bon, je venais d'arriver, mon italien n'était pas terrible, mais en plus, avec le stress de la confession, j'arrêtais pas de changer français-italien. Bon, lui dit qu'il comprend le français, mais ça, c'est...
Il a le droit de penser ça.
Il a le droit de penser ça, mais moi, j'ai relu certaines de ses textes.
Il a peut-être un don des langues, là, tu sais pas. Là.
Ben, il est excellent en latin, mais j'ai vu ses citations en anglais et en français, puis j'ai compris qu'il était meilleur en latin qu'en anglais et en français.
Alors, par l'œuvre de l'Esprit-Saint, il a compris tout ce que tu lui as raconté, oui, vraisemblablement.
Oui, puis ça a été une confession vraiment comme je n'avais jamais vécu. Ça a été... j'ai senti vraiment la miséricorde de Dieu... vraiment, ça a vraiment changé plein de choses dans mon cœur. Puis ce qui a été vraiment particulier, c'est que j'ai été 2 semaines aussi joyeuse aussi, d'une joie que vraiment j'avais jamais connue, une joie vraiment intense. J'avais de la misère à dormir. Normalement, je suis très disciplinée à l'école. Puis là, en cours, je pensais juste à ma confession. Je la revoyais dans ma tête, puis je me disais, je peux pas croire que je lui ai dit ça, puis qu'il m'ait dit ça. Puis je trouvais ça vraiment fascinant. Le prêtre m'avait pas fasciné plus qu'il faut à ce moment-là. Mais quand même, j'avais eu l'impression d'avoir été bien accueillie, d'avoir reçu des bons conseils. Ce qui m'a donné le goût de retourner lui parler. Parce que, en fait, il y avait un problème sur lequel je réfléchissais depuis plusieurs... peut-être 1 an, 2 ans, qui était mon rapport un peu entre la prière et l'étude. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup étudier. Bon, je suis en philosophie, je suis au doctorat. J'ai commencé aussi un certificat en théologie dernièrement. Puis j'ai souvent la tête dans les livres, puis j'avais de la misère, mais dans les dernières années, à prier, parce que je m'ennuyais intellectuellement, ça me paraissait moins stimulant. J'avais de la difficulté vraiment à m'asseoir, surtout quand j'avais étudié toute la journée, après à ouvrir la Bible, à prier pour de vrai. Mes temps de prière, je les faisais en italien presque pour la langue, pour être franche. Puis, donc, je lui ai parlé un peu de ça, de mon rapport à l'étude, de mon rapport à la prière, de la difficulté que j'avais. Et ce qui a été vraiment étrange, c'est qu'après cette rencontre-là, pendant 2 mois, tout s'est inversé. C'est-à-dire que mon étude s'est mise à être ennuyante. J'avais pas envie d'étudier. Ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. 2 mois incapable d'étudier, je me sentais aveugle, je me sentais... j'ouvrais Aristote, je faisais quand même un peu de travail, j'essayais de traduire certains passages, de réfléchir, mais essentiellement, j'avais envie de prier. Tout était à l'inverse. La Bible me touchait, la Bible, je la trouvais stimulante intellectuellement aussi, comme un dialogue. Toutes mes facultés étaient impliquées. Une chose que j'ai découvert aussi en Italie, c'est c'est le rôle de l'imagination dans la prière, c'est-à-dire se laisser parler aussi à travers des images, à travers des scènes. Le prêtre que j'ai côtoyé avait tendance à me donner des exercices spirituels aussi en m'incitant, je sais pas, à faire les mystères douloureux, en imaginant que Marie regarde la scène, là, des choses bien détaillées, en essayant de vraiment voir tous les détails. Et ce rôle-là de l'imagination a aussi été très révélateur pour moi, parce que la prière s'est mise à être beaucoup plus sensible, accessible, comme une présence. J'ai vraiment fait l'expérience de rencontrer le Christ dans la prière.
Simon?
Oui, je t'écoute parler, Laurence. Il me semble que tu as eu tous les symptômes, si je peux dire, au effet d'une effusion de l'esprit. Tu sais, je veux dire, la conversion, la foi, le désir de prier, une soif de la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu l'expliquerais comme ça, toi aussi.
C'est un bon diagnostic, ça, Simon Lessard. Ouais.
Clairement, en tout cas, l'Esprit-Saint... je dirais, c'est ça, c'est fait plus présent dans ma vie, clairement. Là. C'est-à-dire, une autre chose que j'ai découvert, je le disais souvent à Don Francesco, c'est avant l'Italie, avant de parler avec toi, je lui disais, il me semble que Dieu, des fois, il se résumait un peu trop à un premier moteur. Et c'est le Dieu trinitaire que j'ai découvert beaucoup en Italie, c'est-à-dire l'Esprit, mais aussi beaucoup la relation entre le Fils et le Père. Ce qui m'a d'ailleurs aidé, c'est le cours de théologie que j'ai fait aussi avec lui.
Voilà, parce que Laurence Godin-Tremblay, tu le relates d'ailleurs dans ton texte qu'on peut lire en ligne là, sur leverbe.com. Cette relation-là ne s'est pas terminée avec cette première rencontre-là déterminante. Ça s'est poursuivi à travers un cours, mais aussi à travers des rencontres plus régulières.
Oui, à presque tous les jours, en fait. Un peu harcelante. Puis, c'est un proverbe, je pense, qui dit « Quand tu rencontres un sage, va le voir dès le matin. » Donc, par exemple, c'est ça, le samedi, une fois, je me souviens de lui avoir texté. Le samedi, pense qu'on pourrait faire les loads à 6h40, puis après, je pourrais me confesser. Puis, je m'attendais à ce qu'il m'envoie promener, parce que 6h40 du matin, c'est quand même relativement tôt. Puis, il me dit « Je t'attends demain. »
Des propositions comme ça qu'on regrette des fois.
Oui, c'est ça. Puis, je me souviens, après la première fois, je lui ai dit « Bon, c'est le fun, cette nouvelle tradition. » OK, c'est parti. Mais oui, on s'est vus régulièrement. Ça a été vraiment une rencontre révélatrice pour moi parce qu'il m'a aidé sur tous les plans, personnel, affectif et intellectuel, parce que son cours de théologie aussi a changé beaucoup d'aspects dans mon étude, dans mon approche de la philosophie et maintenant de la théologie.
Parce que tu as découvert un peu la théologie avec lui, si je comprends bien, Laurence.
Oui. Parce qu'avant lui, je dois dire que les théologiens me repoussaient un peu. Enfin, ceux que j'avais rencontrés me décevaient parce que, bon, il y a toujours... Enfin, certains théologiens, ça finit « Bon, Jésus t'aime ». Puis quand on...
Bon, c'est beau, nommé. Ça, Jésus t'aime.
C'est vrai, Jésus t'aime, mais pendant 3 heures, c'est un peu long.
OK.
Puis quand on étudie en philosophie, bon, on est habitué de chercher un peu les raisons, les causes derrière, puis on a une certaine exigence. Mais là, j'ai rencontré aussi quelqu'un, je dois le dire, beaucoup plus intelligent que moi.
C'est fatigant, ça.
Ah, c'est... Donc, je veux dire, son cours, je l'ai trouvé super impressionnant, parce que son cours était sur la filiation adoptive, sur comment est-ce que Dieu peut nous adopter et on peut devenir fils de Dieu. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Là.
Et là, tu le vivais, toi-même, tu vivais une relation de filiation avec un père que tu as toi-même dit un père spirituel. Donc,
oui.
C'est comme si tu expérimentais dans ta vie ce que tu étudiais dans le mystère de Dieu.
Oui, c'est ça. C'était vraiment particulier. C'était, je lui disais des fois, là, c'est un coup d'œil, on fait juste parler de paternité. Mais oui, effectivement, parce que ce qui a été frappant aussi pour moi, je pense la chose la plus importante, puis je voulais la mentionner avant de terminer, c'est que quand je dis que c'est un père spirituel, c'est... Bon, des fois, les gens me disent, oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai été touché, par exemple, par un prof de philo, ou un prof de philo m'a beaucoup éduqué, puis moi aussi, j'ai toujours... j'ai vécu ces choses-là avec ces profs de philo-là, avec des profs de philo, d'être éduqué par eux, puis de les considérer en quelque sorte comme des pères, au moins en philosophie. Mais là, c'était complètement autre chose, puis... Un père spirituel qui est prêtre, j'ai découvert que c'est complètement autre chose qu'une relation avec un professeur de philosophie.
En quoi?
D'abord parce que je me confesse pas à mes profs de philo.
Ah non?
Fait que déjà il y a quelque chose de plus personnel, mais c'est parce que c'est plus, ça touche les fondements de ma foi, de mon affectivité, et ça a été pour moi, cette relation-là avec ce prêtre-là, une image de la paternité de Dieu, clairement. C'est-à-dire que j'ai compris en quel sens maintenant Dieu est père et mon père.
Laurence Godin-Tremblay, tu nous parlais de ton cheminement spirituel, spécialement l'épisode Florence de ta vie. On peut lire ton texte « Laurence à Florence » qui aurait pu s'intituler, qui aurait peut-être dû s'intituler, répète-moi.
« Mon père spirituel est italien ».
Ah, voilà.
Parce que je trouvais ça un peu plus punché, mais bon.
ça serait un long débat. Alors, on peut lire tout ça dans le numéro d'automne de notre revue et aussi en ligne au letraitdunionverbe.com. Au plaisir de te réentendre à On n'est pas du monde, Laurence.
Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir.
C'était On n'est pas du monde en version 15 minutes avec Antoine Malenfant et son invité.